auquel on demande de venir.
Ah ouais, d'accord, je comprends.
Alors, Maurice Adjunion a soutenu sa candidature en 2011 à l'EHESS, sous la direction de Gérard Noiriel et d'Alessandro Pellizzi, justement sur les immigrants américains et les représentations d'étrangers dans l'espace éthiopien au 19e et au 20e siècle. Vous avez travaillé en Éthiopie dès 1997 et vous êtes actuellement chercheur attaché à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux de l'EHESS. Et vous travaillez plus globalement sur les diasporas en Afrique et au Moyen-Orient. Votre communication aujourd'hui, alors, concerne pas seulement les Arméniens, mais aussi les Grecs en Éthiopie, sur la période 36-41, donc sous l'occupation italienne de l'Éthiopie. Je vous laisse la parole.
Merci. Et donc, mon travail s'inscrit dans une recherche, enfin, cette communication s'inscrit dans une recherche sur les diasporas. Qui prend pour objet les formes d'enracinement et de sédentarité développées par les individus en diaspora. C'est une problématique qui, à mon avis, est heuristique pour la connaissance de l'histoire des sociétés de résidence et non pas simplement des diasporas elles-mêmes. Ainsi, cette recherche sur les formes d'enracinement des diasporas grecques et arméniennes en Éthiopie et particulièrement à travers les sources italiennes permet, à mon avis, de documenter une socio-histoire du national en Éthiopie, pays d'Afrique qui a une des particularités de ne pas avoir connu la colonisation, bien sûr, avant la conquête italienne de 1936 à 1941. Dans un essai auquel je vais me référer sur les étrangers dans les sociétés africaines, l'anthropologue William Schack, il y a une trentaine d'années, avait essayé de théoriser un modèle dans lequel il distinguait des systèmes de frontières fermées et des systèmes de frontières ouvertes entre les différentes sociétés africaines. Selon lui, les systèmes ouverts auraient été créés par la colonisation et ils auraient permis aux étrangers, qu'ils soient d'ailleurs d'origine européenne, extra-européenne ou africaine, de circuler librement à l'intérieur des colonies, des espaces ouverts créés par la colonisation, non seulement de circuler librement et de séjourner librement, mais aussi d'accéder à des postes de responsabilité souvent supérieurs à ceux des populations indigènes. Tandis que dans les systèmes fermés, qu'il désignait comme tels, c'est-à-dire les pays non colonisés, les sociétés précoloniales, ou alors les États africains d'après les indépendances, on aurait eu des systèmes fermés dans lesquels les étrangers étaient confinés, selon chaque, à des segments d'activité réduits et tenus dans une sorte de marge ou de liminalité intangible. Et il prenait pour exemple, pour justifier sa théorie, par exemple l'expulsion des Indiens d'Ouganda dans les années 70, après donc l'indépendance d'une ancienne colonie, qui aurait provoqué le retour d'un système ouvert vers un système fermé. Mais à mon avis, ce modèle ne tient pas compte des liens complexes qui sont tissés par les individus en diaspora avec leur société de résidence, plutôt à l'intérieur de cette société de résidence. C'est pour ça que je m'intéresse ici au cas des Grecs et des Arméniens, mais on pourrait parler aussi des Libanais, des Indiens, dans d'autres régions d'Afrique. Alors, la documentation qui a été produite par l'administration coloniale italienne en Éthiopie pendant ces 5 années, 1936-41, est précieuse sur cette question parce qu'elle donne des informations précises et nombreuses justement sur l'ensemble des étrangers, et particulièrement sur les Grecs et les Arméniens, puisqu'ils représentaient deux des communautés étrangères les plus importantes à ce moment-là, avec les Indiens et les Arabes hébreux. Alors, pour situer, l'immigration étrangère a commencé en Éthiopie vers la fin du 19e siècle, et en 1930, à la veille de l'occupation italienne de l'Éthiopie, on comptait environ 1200 Arméniens et sans doute environ 3000 Grecs, selon des estimations. Et alors, dans les sources européennes du début du 20e siècle, ou du 19e siècle également, Grecs et Arméniens en Éthiopie sont généralement essentiellement décrits à travers leurs activités commerciales. Et c'est ce qui se retrouve également dans l'historiographie qui du coup les a traités un peu comme s'il s'agissait simplement de diaspora marchande. Alors que ces communautés étaient très intégrées à la vie locale, et par exemple, en Éthiopie, ils n'étaient pas considérés comme des foreigners, c'est-à-dire ni tout à fait comme des blancs, ni tout à fait comme des étrangers. Alors cette particularité qui s'attachait aux Grecs et aux Arméniens est peu visible dans les sources européennes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bien mise en valeur par les sources italiennes de cette période de l'occupation. Sources italiennes qui constituent donc un excellent révélateur de cette sorte d'entre-deux identitaire. Alors pour commencer, donc, la documentation italienne aide à comprendre l'évolution du statut des étrangers dans l'Éthiopie impériale du début du XXe siècle. Je vais prendre pour illustrer cette question le cas des Arméniens, puisque les Italiens ont fait des enquêtes très précises sur le statut des individus dans les territoires dont ils avaient le contrôle. Et il se trouve aussi que, bien sûr, l'idéologie fasciste de l'époque imprégnait l'action de cette administration. Donc on avait des agents coloniaux qui étaient particulièrement attentifs au classement des individus en catégories non seulement raciales, mais aussi nationales. Alors, le cas particulier des Arméniens, qui se trouvaient dans une sorte d'entre-deux juridique, et qu'ils étaient des individus, pour la plupart, apatrides, dans un État africain qui lui-même était souverain. Il y a donc une double particularité. Et les sources italiennes font bien ressortir donc le flou juridique qui caractérisait la situation de ces individus avant la conquête italienne. Alors, je parle ici d'individus qui étaient des personnes présentes de longue date en Éthiopie, souvent de la deuxième génération, et donc souvent également nés en Éthiopie. Alors qu'en Europe, on a une sorte de contradiction ici, qui se voit bien à travers les sources italiennes, puisqu'alors qu'en Europe, depuis la fin du XIXe siècle, et puis encore plus après 1914, on a eu une accélération ou une codification croissante des statuts juridiques, et puis de la démarcation entre national et étranger, avec la mise en place d'instruments de contrôle des immigrants, par exemple, eh bien, en Éthiopie, on n'avait pas une distinction juridique aussi claire entre les sujets étrangers et les sujets éthiopiens du temps de l'Empire d'Éthiopie, et la nécessité d'un contrôle étatique strict sur la présence étrangère qui restait faible n'était pas ressentie comme donc une nécessité. Et finalement, l'identification administrative des individus restait assez embryonnaire. Par exemple, donc pour les Arméniens, qui n'avaient pas de nationalité étant donné l'absence d'un État arménien à cette époque-là, qui étaient originaires de Turquie pour la plupart mais qui ne pouvaient pas y retourner, et qui étaient donc de facto apatrides, ils bénéficiaient pour la plupart du régime d'extraterritorialité qui avait été créé par les divers traités signés entre l'Empire d'Éthiopie et les puissances européennes comme l'Angleterre, l'Italie et la France, et ils se plaçaient au gré de leurs intérêts, sous la protection des puissances étrangères, mais ils restaient ainsi dans une sorte de situation précaire, avec ce statut de protégé, situation précaire, parce qu'ils pouvaient être radiés à tout moment des registres consulaires, au bon vouloir des ambassadeurs, et puis situation instable, puisqu'ils ont souvent changé de protection, passant de la protection allemande à la protection russe, puis la protection française. Alors, une situation précaire, instable, floue, et pourtant, c'est seulement à partir de la conquête italienne que cette situation semble être devenue un problème. Alors, j'ai cité dans la version écrite de cette communication le cas d'un mariage entre un Arménien et une ressortissante hongroise, mariage qui avait été donc célébré par la municipalité d'Addis Abeba, le chef donc éthiopien de la municipalité, en 1935, à la veille de l'occupation italienne. Et puis, un an après la conquête italienne, le marié arménien a voulu faire valider le mariage, l'acte de mariage, par les autorités italiennes. Et là, on a commencé à se poser la question, oui, mais alors, il a été marié en tant que, sur l'acte de mariage, il est déclaré arménien, mais sujet éthiopien, alors que sa femme est ressortissante hongroise. Alors, les Italiens considèrent donc que cet Arménien, puisqu'il est, il se déclare lui-même sujet éthiopien lors de son mariage, eh bien il doit être considéré comme un sujet colonial à l'égal des indigènes d'Érythrée, de Somalie et puis d'Éthiopie maintenant qui est occupée. Donc, par voie de conséquence, sa femme également, qui est pourtant ressortissante hongroise, devient sujet colonial italien, sujet indigène. Donc c'est le droit indigène qui doit leur être appliqué, et en cas de divorce, eh bien, les juges compétents devraient être les chefs indigènes qui, justement, étaient laissés en place ou nommés directement par l'administration italienne. Alors, le problème, c'est que cette situation administrative contrevient à l'idéologie de la défense de la race, difesa della razza, qui est prônée par le fascisme, car elle met des blancs entre les mains de cadres indigènes. Alors, excusez-moi, on a beaucoup, justement, bon, c'est pas un cas isolé, parce qu'on a beaucoup d'Arméniens qui se déclaraient sujets éthiopiens dans les années 30. Je le sais, par exemple, en regardant les registres de l'église arménienne des années 30, on voit que même les enfants, à leur naissance, étaient déclarés sujets arméniens. Et ce, même pendant la période de la colonisation italienne, ce qui est assez intéressant, et ce qui pose des questions. D'ailleurs, ça ne les empêchait pas de cumuler cette déclaration de sujet éthiopien avec un statut de protégé français ou autre. Alors, quelle valeur accorder à ces déclarations? Quelle était leur validité juridique aux yeux de l'ancienne administration éthiopienne? Bon, c'est une question qui est pour le moment difficile à résoudre, mais pour résumer, les documents italiens, les enquêtes faites par les agents italiens à propos d'Arméniens qui avaient demandé par exemple des autorisations de travail pour retourner vivre en Éthiopie après 1936, et qui ont montré que ces Arméniens étaient parfois de nationalité éthiopienne, ou du moins sujet éthiopien, et que ce statut leur avait été accordé par une grâce de l'ex-empereur Haïlé Sélassié. Alors en fait, ça semble montrer que en 1930 comme en 1890, l'empereur faisait ce qu'il voulait et donnait la nationalité un peu à qui il voulait, un peu comme en Russie actuellement, on l'a vu avec Gérard Depardieu. Alors, au-delà de ça, donc, l'exemple des Arméniens montre que les sources italiennes peuvent s'avérer précieuses, mais elles posent aussi beaucoup de questions, il faudrait continuer cette recherche pour comprendre la situation juridique des étrangers en Éthiopie. Mais plus largement, donc, l'attitude des autorités italiennes à l'égard des Grecs et des Arméniens est révélatrice de la sédentarisation de ces individus à l'intérieur de la société de résidence. Parce que l'administration italienne surveillait attentivement les étrangers qu'elle soupçonnait de propagande anti-italienne. Il y avait une véritable paranoïa de la propagande anti-italienne. Et puis en plus, double problème, la proximité suspectée de ces personnes vis-à-vis des indigènes. Alors notamment les Grecs et les Arméniens, pas seulement, également les Italiens implantés depuis longtemps en Éthiopie, les Grecs et les Arméniens étaient suspects car bien intégrés à la société locale. Et donc, après l'attentat contre le vice-roi d'Éthiopie, le maréchal Graziani, qui a déclenché une répression très sévère, féroce même, contre les populations éthiopiennes, on a eu aussi beaucoup d'expulsions d'étrangers qui étaient considérés comme suspects. Et la majorité de ces expulsés ont été, la grande majorité, des expulsés grecs. Les expulsions ont été assez rares, finalement, pour les Arméniens, parce qu'ils étaient apatrides, donc on ne savait pas trop où les expulser. Mais pour les Grecs, c'était très simple, puisque ils avaient un État, et en plus, à ce moment-là, il y a un autre paramètre, c'est que l'Italie et la Grèce, à partir de 1940, entrent en guerre, après avoir déjà eu des relations tendues dans les années précédentes. Donc le traitement des Grecs a été largement déterminé par ça, et on a eu même un projet d'enfermement, hein, d'internement forcé dans un camp de... Un camp, vous appelez ça camp de concentration dans les sources italiennes, hein, même si on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait, de l'ensemble de la population grecque résidant en Éthiopie. Voilà, malgré donc ces mesures de contrôle, l'intégration des Grecs et des Arméniens, leur bonne intégration entre guillemets dans la société éthiopienne, est aussi apparue comme un avantage potentiel pour la colonisation italienne. Ils pouvaient servir de vecteur de la pénétration d'une influence italienne en Éthiopie, comme des auxiliaires. Et il y a eu plusieurs projets d'instrumentalisation de ces deux populations par les Italiens, notamment un sujet portant sur la cession du statut de sujet italien à ces personnes, qui a été écarté finalement, ou de sujet de l'Afrique orientale italienne. Mais là encore, même si c'était vu comme un moyen de contrebalancer l'influence française ou anglaise, qui eux-mêmes avaient beaucoup de protégés dans la région, un peu la même question qu'en Égypte, eh bien là encore, ça posait des problèmes, puisque par exemple, faire des Arméniens des sujets coloniaux italiens, ça revenait à déclarer sujets coloniaux des individus qui étaient de race blanche et arienne. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans les sources. Il y a eu également une politique d'italianisation des jeunesses grecques et arméniennes en Éthiopie, comme on l'a vu en Égypte, avec réquisition des écoles grecques et arméniennes qui ont été transformées en écoles italiennes, création d'associations sportives arméniennes liées au parti fasciste, et même envoie en Éthiopie de prêtres arméniens d'une congrégation catholique de Venise. Alors ça rappelle l'exemple des Salésiens. Là, il s'agit de la congrégation mekitariste, qui est bien connue, qui est sur l'île de Saint-Lazare à Venise, et dont le but de la venue en Éthiopie était d'embrigader la jeunesse arménienne d'Éthiopie. D'ailleurs, il y a une trentaine d'enfants arméniens d'Éthiopie, de garçons qui ont été envoyés à Venise, au couvent mekitariste, pour suivre leur scolarité en Italie, et donc renforcer l'italianité en Éthiopie en retour. Bon, tous ces projets sont finalement inaboutis, puisque l'Italie a été défaite par la Grande-Bretagne en 1941 en Afrique orientale, mais ce sont des projets instructifs sur la perception de ces diasporas par le colonisateur. Et je voudrais donner un dernier exemple, très rapide puisque je l'ai dépassé, avec donc trois familles arméniennes qui ont été déportées, on va dire, en relégation en Italie, en 1937, à un moment où en fait les Italiens, après l'attentat contre Graziani, avaient. Oh, pardon. À un moment donc, où les Italiens avaient envoyé en Italie, dans le sud de l'Italie, 400 chefs éthiopiens pour les tenir sous contrôle étroit. Et ils les ont presque tous renvoyés en Éthiopie au bout d'un an. Ils les ont même réinstallés dans l'administration indirecte de l'Éthiopie. Par contre, ils ont gardé 90 personnes jugées irréductibles. Parmi ces 90, ils en ont mis 34 dans un camp à Longobuco, en Calabre, 34 qui étaient considérées comme irréductibles et dangereuses. Et parmi ces 34, qui étaient tous des chefs éthiopiens de haut rang, eh bien, il y avait trois familles arméniennes, en tout 10 personnes. Alors, je dirais plutôt trois familles éthio-arméniennes, puisque tous étaient de la deuxième génération, tous métis, tous fils et filles d'Arméniens qui avaient été des serviteurs de l'empereur Ménélique ou alors de l'empereur Haïlé Sélassié, et tous qui n'avaient aucune raison d'être là, si ce n'est que d'après les sources italiennes, ils vivaient de manière trop proche des Éthiopiens, ils étaient abyssinisés. Et c'était finalement le seul reproche qu'on pouvait leur faire, et ce sont ceux qui sont restés le plus longtemps, jusqu'en 1943, en Italie. Et à ma connaissance, ce sont les seuls étrangers, à l'exception d'une famille éthio-russe, qui ont été déportés ainsi en Italie, en même temps que les chefs éthiopiens. Bon. Alors, pour conclure, je vais m'autoriser une dernière gorgée d'eau avant de conclure. Les sources qui sont produites par l'administration coloniale sont révélatrices de cet enracinement prononcé des Grecs et des Arméniens en Éthiopie. Elles donnent à voir un entre-deux juridique et identitaire dans lequel les individus étaient en capacité finalement de faire valoir telle ou telle facette de leurs appartenances politiques, culturelles et sociales. Et ce n'est d'ailleurs pas étonnant que dans ce contexte, des Arméniens et des Grecs ont collaboré avec les Italiens, tandis que d'autres ont résisté, ont mis la main à la pâte à la résistance éthiopienne contre les Italiens. Plus généralement, ce travail montre que les liens complexes des individus avec la société de résidence ne peuvent pas être traduits par des concepts tels que ceux de diaspora marchande ou de minorité intermédiaire, qui seraient tournés vers leur pays d'origine et vers des activités essentiellement commerciales, qui seraient quasiment détachés de la vie de la société locale, et qui seraient parfois les boucs émissaires des populations autochtones. Au contraire, on voit ici que ce que l'étude des diasporas peut apporter à une socio-histoire des États-nations en Afrique. Lorsque cette étude des diasporas s'intéresse aux ancrages sociaux et politiques des individus dans leur société de résidence, contredisant ainsi finalement le modèle théorique d'une société africaine non coloniale fermée aux étrangers, pour l'Éthiopie, ces archives coloniales apportent un éclairage irremplaçable sur le contexte éthiopien du début du XXe siècle. Ce sont finalement à travers ces archives italiennes qu'on arrive à comprendre certaines questions liées au statut de l'étranger en Éthiopie avant la colonisation. Et sur ce contexte qui a rendu possible ces étonnants jeux d'identité à une époque de la construction d'États-nations éthiopiens où finalement la limite entre l'étranger et le national était indécise et restait tout à fait perméable.
Merci. Alors effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives transversales, mais on pourra en discuter après. Des questions ponctuelles tout d'abord.
Oui, bonjour. Est-ce que vous vous êtes intéressé au cas du Soudan et au cas de la communauté grecque,
au Soudan, puisque enfin, c'était un condominium égypto-britannique, et donc il y a eu quand même pas mal de bouleversements dans l'histoire du Soudan, et la communauté grecque a survécu à tous ces bouleversements et est restée très ancrée. Donc je me demandais si vous aviez eu...
Non, j'ai pas fait de recherche dessus, ça m'intéresse beaucoup.
Voilà. Discussion. Autre question ?
Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait d'autres communautés à cette époque, venues d'Europe ou ailleurs, qui avaient le même statut de sujet ? Parce qu'il me semble quand même que pour les Éthiopiens, la religion des Grecs et des Arméniens était quand même importante. C'est-à-dire que même les Éthiopiens, en tout cas aujourd'hui, les voient différemment des autres blancs, entre guillemets, parce qu'ils sont orthodoxes, parce qu'ils ont christianisé depuis la même époque que l'Éthiopie. Alors est-ce que ça a un rôle ou pas, ça ? Est-ce que je raconte n'importe quoi ou pas ?
Non, ça a un rôle, mais attention, il y a une grosse confusion à partir du terme orthodoxe. Ouais. Parce que l'église éthiopienne, son intitulé officiel, c'est église orthodoxe de Wahadou d'Éthiopie. Et l'église grecque, évidemment, c'est l'église orthodoxe grecque. Seulement, les Arméniens qui ne sont pas orthodoxes, sont en fait exactement l'église arménienne est une église sœur de l'église d'Éthiopie. Ce sont des églises non chalcédoniennes, depuis donc le 5e siècle, qui sont séparées à la fois de Rome et de Constantinople, si vous voulez. Donc cette proximité entre église arménienne et église éthiopienne a eu historiquement un rôle essentiel, à mon avis, notamment à travers les relations que ces deux églises entretenaient à Jérusalem depuis le Moyen-Âge, depuis le 13e siècle en gros. Et par exemple, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, on voit que des Arméniens circulent librement en Éthiopie, alors que pour les Européens, c'est devenu impossible à partir de la fin du premier tiers du 17e siècle. Bon, pour les Grecs, il y a également le fait qu'ils n'étaient pas catholiques, même s'ils n'étaient pas exactement de la même configuration religieuse que les Éthiopiens, le fait qu'ils n'étaient ni catholiques ni protestants les a avantagés. Et puis également, les rois d'Éthiopie, Ménélique et même Haïlé Sélassié, ont joué sur cette ambiguïté. Il y a eu des tentatives même d'union de l'église d'Éthiopie à l'église russe, par exemple, dans les années 1890. Il y a eu des projets comme ça.
Alors moi, j'ai une question. Même deux questions. Quelles sont les raisons des exils arméniens et grecs dans cette. Est-ce que c'est juste après le génocide, ou est-ce que, vu que ça commence dès la fin du 19e siècle, quelles sont les raisons ? Elles sont seulement commerciales, ou elles commencent à changer progressivement pour devenir politiques, voire je ne sais pas. Et la deuxième question, c'est sur la perception de ces Arméniens par les Éthiopiens. C'est qu'on a une image plutôt d'entente, d'amitié cordiale avec ces diaspora arménienne et grecque. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres perceptions par les Éthiopiens de cette diaspora, ou quand même d'une certaine haine, une certaine rejet de la diaspora par les Éthiopiens ?
Voilà, ce sont des questions vastes. Alors pour la première question, je n'ai pas de réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que l'immigration arménienne a déjà un caractère familial à partir des années 1890 en Éthiopie, donc bien avant le génocide. Et il y a déjà une communauté. Et puis, il y a toujours eu des Arméniens et des Grecs au 19e siècle en Éthiopie, même si c'était que des poignées d'individus. Ensuite, pour les Grecs, le caractère familial de l'immigration ne vient que plus tardivement, à partir des années 1910-1920. Une grande partie des Grecs qui sont en Éthiopie à ce moment-là sont venus, sont des célibataires qui sont venus pour la construction du chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba. Je dirais pas... Oui, il y a un aspect immigration de travail, de commerce. Parfois, on a des gens qui sont venus au gré des opportunités commerciales, par exemple pour les Arméniens qui sont venus d'Égypte. Quand les Égyptiens ont occupé Harar pendant 10 ans, entre 1875 et 1885, il y avait des Arméniens et aussi des Grecs à Harar. Donc là, il y a des opportunités commerciales. Et puis, 10 ans plus tard, ces gens-là font venir leur famille. Quand il y a des massacres en Turquie d'Arméniens, bon ben voilà, le village est dispersé et on a une partie du village qui se retrouve à Harar et qui finalement va faire souche et rester en Éthiopie. Donc après, il y a justement, on part peut-être de raisons politiques, et puis après, bon, ben, dans les relations qui se créent à l'intérieur de la société de résidence, on a aussi des opportunités politiques, et donc il y a eu beaucoup, sans dire qu'ils ont eu un rôle politique déterminant, ce qui serait exagéré, il y a beaucoup d'Arméniens et de Grecs qui étaient proches du pouvoir impérial éthiopien.
Juste pour enchaîner là-dessus, sur place, ils sont commerçants. Il y a d'autres types de...
Non, justement. Alors, par exemple, bon, je connais bien le cas des Arméniens, parce que c'est celui de ma thèse. Le fait qu'ils parlaient très bien l'amharique très tôt, a fait qu'ils ont été très souvent occupés des postes de petits employés dans l'administration éthiopienne. ça c'est important. Et puis il y a aussi des activités culturelles, bon, il y a l'enseignement, et puis il y a aussi la musique par exemple, hein, un rôle déterminant dans la musique, là par contre, c'est très célèbre en Éthiopie, encore aujourd'hui. Justement, ça va bien au-delà, il y a un enrichissement dès les 10-20 premières années, on passe de beaucoup d'activités commerciales à de plus en plus d'activités diversifiées. Quoi. Et ça montre bien cet enracinement. Puis alors, pour les perceptions, là, vous posez une question difficile parce que c'est difficile de connaître, de parler des perceptions éthiopiennes, entre guillemets, de ces étrangers, parce qu'il faut faire des enquêtes pour ça. Et aujourd'hui, ces diasporas ont été tellement affaiblies après la révolution éthiopienne de 1974, que l'homme de la rue, je dirais surtout le jeune homme de la rue, ne sait même plus de qui il s'agit. Et puis c'est essentiellement consacré dans les plus grandes villes, donc Addis Abeba essentiellement aujourd'hui. On est obligé de passer par les sources européennes finalement, ou alors par des sources arméniennes, des sources internes. Alors là, je me suis beaucoup intéressé à la mémoire, aux sources orales, et pour essayer de retrouver le regard que pouvaient avoir les Éthiopiens de l'époque sur ces gens-là. Mais évidemment, on passe par des biais. Alors les sources italiennes sont un biais également.
Alors, on va passer à la prochaine communication de Karine Armandi, qui a un peu qui va
J'espère
aussi. Alors, Karine Armandi, vous êtes doctorante à l'Université de Paris 1, dans le laboratoire IRIS, et chargée de cours à Paris 4, donc du FM. Vous avez fait votre mémoire de Master 2 sur l'assassinat de Baptiste Lumumba. Et vous commencez, alors depuis un an et demi, une thèse justement sur les assassinats et les morts des leaders africains au temps de l'indépendance.
Pierre.
On voit bien.
Merci.
Et donc la communication d'aujourd'hui, elle portera alors, sur une autre région africaine, plus autour du Congo et du Cameroun, avec Lumumba et Mali.
Alors oui, en effet, cette communication, elle s'ancre dans mes recherches qui sont entreprises dans le cadre d'une thèse, qui m'ont en fait permis de constater qu'à l'heure des indépendances, les corps des leaders nationalistes africains assassinés ont subi un traitement violent. Généralement, ils représentaient l'espoir d'un avenir politique nouveau, et ils ont fait, a priori, et bon, ça a l'air de se confirmer dans ce que je trouve et dans mes recherches, d'un acharnement méticuleux de la part de certaines forces endogènes et exogènes postcoloniales, dans le but, et là c'est clairement affiché, d'éviter toute renaissance politique. Cette communication va donc centrer la réflexion sur deux hommes, Patrice Lumumba, qui est Premier ministre, je ne sais pas si je vais arriver à aller jusque là, voilà. Deux hommes, Patrice Lumumba, Premier ministre de la Jeune République du Congo, qui est mort le 17 janvier 1961 au Katanga, et de Ruben Niobe, leader de l'Union des populations du Cameroun, mort le 17 septembre 1958 dans le maquis de la Sanaga maritime, dans un Cameroun qui est encore sous domination française. Alors cette comparaison me paraît justifiée car le destin politique de ces deux leaders connaît de nombreuses similitudes jusque dans la mort. En effet, ces deux leaders peuvent être qualifiés de leaders nationistes, hostiles au tribalisme, peu enclins à la violence révolutionnaire. Ils sont aussi des leaders indociles aux projets coloniaux ou néocoloniaux, dérangeants pour leur neutralisme positif dans un monde qui est à lecture bipolaire en pleine guerre froide. Tous les deux ont fait l'objet de tentatives d'élimination judiciaire, et ils ont fait aussi l'objet d'un assassinat médiatique qui ont facilité leur mise à mort. Ce sont aussi des figures fragilisées par des dissensions ou des trahisons internes. Aujourd'hui encore, les scénarios de leur assassinat sont toujours à clarifier. L'accessibilité aux sources reste un enjeu majeur dans ma recherche, Et ma réflexion ici se structurera autour de trois axes qui, vu le délai imparti, ne peuvent qu'être brièvement évoqués. Le premier axe nous ramène un peu en amont de la mort des deux leaders, et particulièrement sur la chasse à l'homme dont ils furent les victimes à nom de succéder. La perméabilité entre le domaine politique et le domaine cynégétique a déjà été soulignée par certains travaux et écrits sur la violence coloniale. L'étude de ces deux cas la confirme. Tout d'abord, chacun a été victime d'un processus d'animalisation par les forces coloniales avec le concours de certains médias. J'essaierai de mener la comparaison des deux hommes, mais dans le délai, ce n'est pas toujours évident. Pour Humbed Umdiobé, il a vécu dans le maquis un peu plus de 3 ans et demi, et il est vu par le journaliste du Figaro, Max-Olivier Lacan, comme celui, je cite, « qui endosse la peau de panthère paternelle et déchaîne les tueurs ». Il est vu aussi comme celui qui hurle comme un loup du fond de la forêt. Donc voilà un petit peu les messages véhiculés par certains médias. Je voudrais attirer votre attention sur cette photographie qui est un cliché qui a été pris de Patrice Lumumba par Dietrich Memmendey à Léopoldville le 3 décembre 1960. Elle a été prise, ce cliché a été pris après la cavale de Patrice Lumumba, qui est parti de Léopoldville le 27 novembre 1960 pour rejoindre son fief politique de Stanleyville après une véritable course-poursuite de la part des autorités coloniales, enfin néocoloniales plus exactement. Et il est ramené manu militari à Léopoldville le 3 décembre 1960 après avoir été arrêté à Lodi par les hommes de Mobutu, dont le fameux Gilbert Bongo. On parle de chasse à l'homme qui a été rondement menée par cet homme, qui est un élément totalement exalté, puisqu'il a juré depuis la mi-septembre de liquider Lumumba. Alors, à son retour à Léopoldville, le Premier ministre est projeté dans un camion, il est recroquevillé sur lui-même, et là, un soldat lui relève violemment la tête, en le tirant par les cheveux, c'est ce qu'on peut voir donc sur ce cliché, pour que les photographes qui sont tout autour du camion puissent le photographier, évidemment. Ici, le Premier ministre a totalement perdu sa dignité, il est exhibé comme une proie, un trophée de chasse. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, le photographe dira lui-même « Je n'ai jamais oublié de ma vie ce regard effrayé de bête traquée. » En effet, le champ lexical dévolu à la mise en récit de l'arrestation des deux leaders est bel et bien celui d'une partie de chasse. Le cas de la traque de Ruben Umdiobé, renforcé par la zone de pacification du Sanaga maritime, est à ce titre édifiant. On parle de traque, d'encerclement. Les maquisards sont pistés dans des courses-poursuites. On parle de traces fraîches, on parle de personnes aux abois, de capture. Considéré d'ailleurs comme une pièce de choix, Ruben Umdiobé est l'ennemi, je cite, qui se dérobe dans la forêt équatoriale. Il faut dire qu'il y évolue depuis son enfance. Il s'agit là d'un véritable espace vécu qui lui facilite la cache dans un périmètre qui n'excédera jamais plus de 15 à 20 km autour de Boumnievel, son lieu d'habitation. Les autorités coloniales vont d'ailleurs avoir recours systématiquement à ce qu'on appelle des guillemets pour pister au plus près les maquisards. Le recrutement de ce qu'on appelle les dix cocons devient systématique. Ces mouchards, appelés pisteurs, ralliés, facilitent le travail. Les archives militaires montrent même qu'il est devenu impossible de s'en passer. C'est donc avec le concours de l'un d'eux, Luc Macon, que Oum est localisé, identifié et tué. Le deuxième axe de réflexion porte sur les dépouilles des deux hommes. Ces dépouilles sont considérées comme des dépouilles encombrantes, décor sans réelle sépulture, mais toujours vivant dans les esprits. Quelques individus possèdent, on le sait, ce pouvoir, cette aura qui consiste à contenir la fraction d'espace dans lequel qu'ils occupent, à être tout, à la fois le sujet, la place. Et les leaders charismatiques ont cette intensité de présence même dans la mort. C'est sûrement pour ceci, pour cela, que les corps ont été, de ces hommes ont été maltraités. Le corps de Ruben Umniobe fut traîné jusqu'au village de Lyon. Il y arriva ensanglanté, le visage défiguré, la population fut invitée à venir l'identifier, à le contempler. Une photographie que je vous projette ici montre un corps abîmé, molesté. Elle fut jointe au tract tiré à des milliers d'exemplaires et distribué dans les centres urbains du sud du Cameroun, annonçant la chute du leader charismatique. Alors, c'est un objet de recherche encore, savoir qui a pris cette photo, quand, comment, ou plutôt que de mettre n'importe quoi, mettons que ce que nous ne sait pas encore, ou pas tout à fait bien en tous les cas. Le corps a été propriété de l'État, il est donc acheminé ensuite à Ezeka, transporté à l'hôpital où on constate le décès, exposé dans une salle, et il est molesté, profané par Jacques Bidjoka, un des principaux chefs des milices dites hautes d'autodéfense, qui étaient financées par l'administration pour lutter contre le pays. Achille Bembe ajoute dans ses écrits que certes, on ne pouvait pas faire disparaître entièrement le corps, mais l'idée de lui trancher la tête et d'en retirer le cerveau afin de l'examiner fut avancée. On est tout à fait dans une approche darwinienne. Le corps de Patrice Lumumba, lui, je n'aurai pas de photo à vous montrer puisqu'il a été détruit, entièrement dissous dans la soude, rien ne devait subsister. Son corps avait pourtant été enterré sur le lieu de son meurtre, dans une fosse de fortune, mais 40 ans plus tard, le commissaire de police belge Gérard Soet avoua avec de l'aide avoir déterré, transporté, découpé, dissous le corps du leader sur les ordres du Katangais Georges Munungo. Il garda d'ailleurs, toujours dans cette logique un peu de trophée, quelques dents. Il a eu du mal à arracher, dira-t-il dans un documentaire. Un tel acharnement avait de nombreux objectifs. Dissimuler les preuves et les mauvais traitements infligés aux ministres, mais aussi couper court à toute héroïsation et potentiel déchaînement des violences des Lumumbistes. Deuxième point, ce sont des corps sans réelle sépulture. Les corps de ces pères de la nation ont été laissés sans soins, sans rites, sans sépulture, rendant pour les proches le deuil, et pour les partisans, le deuil impossible. Tshombe, qui est à la tête du Katanga, rejette la demande d'exhumation du corps faite par la famille de Patrice Lumumba. Pour lui, selon les coutumes bantoues, ce n'est pas possible. Il refuse aussi que la famille se rende sur la tombe, seulement il n'y en a pas, car il ne souhaite pas que le village où les corps sont inhumés soit identifié, ce qui est un pur mensonge. La mère de Patrice Lumumba, Julienne Amatou, réagissait à l'absence de sépulture de son fils avec ses propres mots, que je vous cite. « Pourquoi la nature refuse-t-elle toujours de me montrer la dépouille des miens? Où partent-ils réellement? Où sont-ils enterrés, comme tout le monde, mais à mon insu ?» Chez les Tétela, qui est l'ethnie de Patrice Lumumba, enterrer un homme, c'est le conduire au village des ancêtres et donc permettre son retour. La famille de Patrice Lumumba n'assista pas non plus à son enterrement. La cérémonie fut hâtive, les rites non respectés. Son corps fut immergé dans un bloc de béton, empêchant tout contact avec sa terre ancestrale, au cimetière protestant des Écarts. Une tombe misérable qui a été surveillée pendant 2 mois et qui d'ailleurs est restée anonyme très longtemps. Une chanson du pays Bassa raconte sur Umniobe. Es-tu mort ou es-tu vivant? Ce qui ne périt pas demeurera. Podol est de cela. À quand ton retour au village sous l'auvent de ton père? Qu'enlèverons-nous enfin ton deuil et fêterons-nous les retrouvailles. L'âme de ces leaders est donc condamnée, dans une lecture endogène, à errer sans repos, à devenir des spectres. Ainsi, la méconnaissance de l'état colonial belge et français, des significations des rites d'inhumation, a favorisé à leur insu l'exclusion de ces morts du clan des ancêtres, les condamnant à hanter le présent. Le troisième et dernier axe de réflexion est centré sur l'inversion symbolique des corps. En effet, l'exhibition publique de l'un ou la dissolution du cadavre de l'autre, une tombe de fortune pour l'un, l'absence de tombeau pour l'autre, marque néanmoins la naissance des deux leaders comme icônes mémorielles, et ce à mesure que disparaît le corps. Dans une lecture européocentrée, à la suite notamment des travaux de Kantorowicz, le corps naturel est assujetti à la mort, aux outrages, et le corps politique est sacré et immortel, permettant ainsi aux sociétés de se perpétuer indéfiniment à travers lui. Cette analyse se retrouve là, renforcée par une lecture camerounaise et congolaise. Pour faire vite. De leur vivant, les leaders sont perçus comme dotés de pouvoirs surnaturels renforcés par les conditions tragiques de leur mort. Ainsi, dans la société Bassa, le Mbok, en tant que système religieux, visait prioritairement à la préservation de la vie des individus à travers la pacification des forces et de la nature et le contrôle de ce qui est appelé le monde de la nuit. Ce pouvoir procédait en fait de la connaissance des réalités du monde, visibles et invisibles. C'est du domaine de la nuit qu'était supposée provenir la capacité de commander, de se faire obéir ou de repérer les talents. Et Ruben Uniobe était donc de ceux dont les actions sont légitimées par le monde de la nuit. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Yves qui est ici et qui a travaillé là-dessus justement. Pour Patrice Lumumba, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est perçu par les Européens. Eh bien, Levin évoque dans son ouvrage, pour son peuple Bassa, Oum avait la réputation d'un surhomme, invulnérable au bal. D'ailleurs, il possédait une sorte de puissante potion magique. Voilà comment il est perçu. Pour Patrice Lumumba, la mémoire Tétéla relate que sa naissance avait été annoncée par des signes extraordinaires, qu'il était lui aussi invulnérable au bal, qu'il aurait remis à son père une bouteille d'eau pure à garder, et tant que son contenu ne devenait pas de la couleur du sang, cela signifiait qu'il n'était pas mort. Et aujourd'hui, pour les Tétéla, la bouteille est encore d'eau pure. Le dernier aspect montrerait dans cette démonstration que je veux vous faire et je veux conduire que finalement pendant très longtemps ces deux leaders ont été victimes de silence, d'oubli, d'occultation. Leurs effets personnels ont disparu, leurs écrits ont été conservés parfois dans le cas de Patrice Lumumba grâce à des relations amicales qui étaient entretenues avec certains Belges. Les effigies ont été interdites, mais certains morts ne sont pas faciles à enterrer. Ils ont été parfois victimes d'une très lente réhabilitation. Mobutu s'est servi en 1966 de Lumumba. Il est l'illustre Congolais, premier martyr, tombé victime des machinations colonialistes. Quand on connaît l'implication de Lumumba dans son meurtre, cela peut laisser pantois. Niobe a été réhabilité grâce au décret présidentiel du 16 décembre 1991 et il est l'une des figures emblématiques aujourd'hui du Cameroun. Cependant, si son évocation est possible, il n'y a aucune commémoration officielle, pas d'édifice monumental ou de rue emblématique à son nom. Je voudrais quand même, pour terminer, vous montrer deux statues. Deux statues qui ont été érigées, l'une en 2002 dans le quartier populaire de Limete à Kinshasa, qui est celle de Patrice Lumumba. Alors elle est vue par les Congolais comme une deuxième mort, tant elle lui ressemble peu et tant sa confection a été bâclée. En juin 2007, l'érection du statut de Aouma Ezeka aurait pu être un moment de commémoration nationale sur ce lieu qui est chargé de mémoire. Aucune personne officielle n'était présente et n'est venue assister à son inauguration. Et la statue, là aussi, est considérée comme si peu ressemblante qu'elle n'est finalement guère appréciée. Je voudrais juste conclure sur une citation d'Alain Corbin, qui ouvrira sûrement la réflexion du champ de recherche sur l'histoire du corps, sur les leaders africains, et qui est aussi, à mon avis, un axe qu'il faudra peut-être investir. « Le corps est une fiction, un ensemble de représentations mentales, une image inconsciente qui s'élabore, se dissout, se reconstruit, sous la médiation des discours sociaux et des systèmes symboliques. Sans nul doute, c'est un champ de recherche, le corps des leaders africains est un champ de recherche qu'il faut continuer à investir. C'est un enjeu du passé, qui est lié à l'histoire et aux mémoires, mais c'est aussi un enjeu, me semble-t-il, du présent, quand on fait du terrain, on le voit bien, dans lequel il faut vivre et évoluer. Je vous remercie. »
Alors, comme... oui, on peut, hein, on l'a fait avant.
Merci.
Comme pour les interventions précédentes, tout d'abord, des questions ponctuelles, alors qu'il est évident que cette intervention aussi nous donne plein d'idées transversales. Donc, des questions spécifiques.
Oui. De façon assez égoïste, vous avez parlé du fait que ces deux leaders ont été des victimes d'un certain acharnement médiatique à un certain moment,
et notamment
le Figaro. Je me demandais si vous êtes aussi penchée sur les médias locaux, parce qu'eux aussi ont pu répercuter quelque chose.
Alors, sur les médias locaux au Cameroun ou au Congo ?
Je m'intéresse plutôt au Congo, mais les deux m'intéressent de manière...
Alors, pour le Congo, je me suis intéressée aux médias locaux, mais les médias locaux étaient extrêmement soit inexistants sur la période qui nous intéresse pour le Congo, puisque c'était des médias qui étaient soit réalisés par Patrice Lumumba lui-même, c'est-à-dire des articles de journaux, qui étaient des discours qui étaient passés à la presse tout à fait locale, ou alors on avait une presse qui était encore une presse extrêmement colonialiste, qui avait pour objectif de démonter systématiquement ce qui était fait par le Premier ministre, qui n'est resté finalement en exercice que 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois. Mais il y a eu beaucoup de choses à gérer. Pour le Cameroun, c'est un petit peu différent, ça serait beaucoup plus complexe à expliquer. Oui, en effet, là, il y avait une presse locale qui contrecarrait la propagande qui était très intensive à l'époque de la mise à mort de Ruben Niobe, et qui était une presse qui avait pour objectif, c'était une presse militante qui avait peu de moyens, qui en a eu un tout petit peu plus à partir des années 59, puisque les leaders en exil de l'UPC sont allés chercher des crédits ou de l'argent ailleurs et ont pu revenir et donc financer une partie de la presse dite militante. Voilà.
Je me posais la même question, effectivement, sur pas un contre-discours, mais peut-être faire un contrepoint à ce que vous analysez de manière tout à fait intéressante. On pourrait faire référence, et je crois que vous faites un peu au travail du Burundi, de Sindiki, à la figure de Lumumba, mais un contrepoint d'un discours autre.
Tout à fait. Pour la presse congolaise, c'est assez difficile à réaliser parce qu'il y a finalement tout ceci, il y a une véritable accélération de l'histoire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en quelques mois, le pays est à la fois indépendant, doit mener de front, doit rentrer de pied dans les relations internationales, dans les relations avec l'ONU, dans ses propres relations, construire sa nation, penser le panafricanisme. Donc on est vraiment dans un moment d'accélération où finalement... si on met le nombre de jours où Patrice Lumumba a vraiment tenu les rênes du pays, on est surpris, on se dit, mais enfin, on parle de quelqu'un qui est resté 2 mois au pouvoir, vraiment. Donc en fait, c'est ça, comment... Alors après, c'est sûr que aller sur place, de la presse locale, moi j'ai fait un peu de terrain déjà à Kinshasa, c'est très compliqué. En fait, sur la presse vraiment de l'époque, sur cette période-là et un peu avant, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Patrice Lumumba, c'est une météore politique. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où il devient un peu connu et le moment où il représente le pays, il s'écoule 4 ans, 5 ans maximum, et qu'en plus, c'est entrecoupé de moments où il est en prison. Donc, il faut imaginer qu'au niveau du temps, on est là dans vraiment un moment de temps d'accélération qui, finalement, ne donne pas beaucoup de réactivité à la presse, alors que c'est un peu différent au Cameroun, où là, il n'y a pas du tout le même background politique au Cameroun qu'au Congo belge, où vraiment, on a tout mis sous cloche pendant très très longtemps.
Alors c'est peut-être une petite question justement
sur les...
On a encore une intervention et il me semble que la discussion générale est importante. Donc excusez-moi, mais je crois qu'on doit arrêter vers moins le quart, il est presque la nuit. Donc il faut quand même qu'elle puisse intervenir dans le temps normal. Voilà. Donc on est quand même la place pour la dernière discussion, sinon on va être tous
frustrés. Alors Marie Pires, elle est journaliste de formation et elle s'est spécialisée à l'Université de Gand sur les rapports entre conflit et développement. Elle a travaillé pour une ONG et elle est actuellement doctorante à l'Université libre de Bruxelles à la faculté de philosophie des lettres. Elle va nous présenter sa communication sur le journalisme au Congo et en Côte d'Ivoire avec une comparaison entre deux grands moments, notamment le temps des indépendances et les célébrations des indépendances en 2010, dans une perspective un petit peu de comparaison historique et analyse de la communication et des pratiques journalistiques.
Merci beaucoup. J'aimerais vous adresser à Samel. Donc, j'ai effectivement deux spécificités. La première, c'est que je ne suis pas historienne. Je fais une recherche en information et communication qui tente une perspective historique, mais voilà, avec une approche un petit peu différente. J'espère que vous me pardonnerez. Et alors, effectivement, je viens de Bruxelles, donc enfin, c'est le fait qu'on soit dans une rencontre nationale. Je viens un petit peu de l'extérieur. Je voulais d'abord vous dire quelques mots sur. Je vais vous dire quelques mots sur ma recherche de doctorat de manière générale. Mon but, c'est d'étudier la profession des journalistes de presse écrite au Congo et en Côte d'Ivoire. Je parle de journalistes autochtones dans la mesure où j'étudie les journalistes ivoiriens et congolais. Étant donné que durant la colonisation, il y a également eu beaucoup de journalisme français et belge dans ces deux pays, je considère la profession comme une construction socio-historique et mon but est donc d'essayer de la déconstruire pour comprendre ce que je vois actuellement dans ces pays. J'essaie de rester dans le temps pour voir ce qui a permis ce métier aujourd'hui. Les outils que j'utilise, c'est la sociologie des professions principalement, bien sûr la littérature existante. Je mène beaucoup d'entretiens. Et je parle aussi de corpus de presse, mais qui ne pourront pas être évoqués aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans un délai de temps très court. Je voulais aussi vous dire que du coup, les constats que je vais émettre aujourd'hui ne pourront s'appliquer qu'à ces corpus de presse. Donc il y a toute une partie de la presse écrite aujourd'hui au Congo et en Côte d'Ivoire qui n'est pas mentionnée ici. J'ai surtout des grands quotidiens nationaux dans mes corpus de presse. Donc je suis à mi-parcours de ma recherche à peu près. Je voulais vous donner quelques mots très rapidement, un aperçu de ce que j'ai pu entrevoir après donc, deux voyages de terrain dans les deux pays, donc quatre terrains avec une centaine d'entretiens. Alors à propos de la communication proprement dite journalisme et interdépendance, je parle du postulat que les journalistes font partie d'un système d'interdépendance et que donc ils modulent leur pratique professionnelle en fonction de ce système. Mon objectif aujourd'hui, c'est de décrire très brièvement le système relationnel qui a existé et qui existe autour des journalistes congolais et ivoiriens de presse écrite. J'aimerais essayer d'identifier les acteurs de ce système et les relations qui sont établies entre ces acteurs. Le
but c'est de voir comment ce système de structure construit continuellement la pratique professionnelle. Alors, un très très bref aperçu historique des pratiques professionnelles au Congo. Durant la colonisation, avant l'indépendance, les premiers journalistes congolais, parce qu'il y en a, doivent négocier leur espace professionnel par rapport à deux interlocuteurs que je considère comme principaux à ce moment-là, c'est-à-dire l'administration belge d'une part, mais également l'émission. Pourquoi ? Parce que l'administration belge aide de restreindre très très fortement la presse, donc en gros, sans autorisation préalable, pas de presse, donc c'est très difficile pour une presse locale d'émerger. Mais quand cette administration coloniale a délégué l'enseignement aux missions, les missions, elles, créent des organes locaux, en langue autochtone également. En fait, leur but à elles, c'est d'évangéliser, c'est de pouvoir apporter la bonne parole. C'est ça, c'est pour ça, mais ça permet aux premiers journalistes congolais d'entrer dans nos actions, d'affiner leur plume, en fait, de commencer à comprendre ce qu'est le métier. Donc finalement, à la veille de l'indépendance, chaque parti congolais dispose d'un ou plusieurs journaux, qui est donc très politique, qui prône une certaine vision du futur Congo indépendant. On est là à 58-59, et parmi les journalistes d'alors, c'est un Patrice Lumumba, qui est voilà, journaliste politique, c'est ce que j'appelle les hommes doubles, c'est un peu la frontière, c'est un autre sujet. À l'indépendance, après le 30 juin 1960, beaucoup d'anciens journalistes entament une carrière politique. C'est le cas de Lumumba, qui donc, est Premier ministre. Et donc lui qui combattait les méthodes de l'administration belge, on le voit sur une d'un de ses journaux Umbrou, où il se déclare pour la liberté et donc contre les méthodes de l'administration belge, bien lui finalement il va utiliser les mêmes méthodes que l'administration pour arriver aux mêmes fins. Il verrouille l'espace professionnel des journalistes, il interdit toute publication sans autorisation préalable pour contrôler politiquement le pays. Voilà, je passe quelques années, je vais très rapidement en 1965, l'arrivée de Mobutu, qui était également un ancien journaliste, qui lui a beaucoup été aussi dans les journaux d'émission. En 1970, il instaure une première loi sur la presse, il instaure le système de cautionnement comme condition pour créer une entreprise éditoriale. Conséquence, comme il faut pouvoir porter une caution pour ouvrir son journal, et bien le secteur privé n'est plus capable d'être présent, c'est le désinvestissement du secteur privé. Les journaux sont donc officiellement pris en charge par l'État, l'État parti, le parti unique, le MPR de Mobutu, qui s'impose donc comme unique propriétaire des journaux du pays. 72, le ministère de l'Information fusionne les journaux existants afin de créer un système de grands journaux, c'est ce qu'on appelle la chaîne toujours de Mobutu. Donc la presse zaïroise est étatisée et en plus réduite à une dizaine de titres. Elle doit en fait orienter la masse. Le ministère de l'Information s'appelle à ce moment-là le ministère de l'Orientation nationale. Le journaliste est alors un militant du parti MPR, mais à partir de 1975, la conjoncture économique désastreuse que subit le pays implique que Mobutu ne sait plus financer tous ses journaux et donc, en 81, il y a une deuxième loi sur la presse qui ouvre la possibilité pour les personnes privées de créer un organe de presse. C'est la fin du monopole du parti État sur les médias. Une petite dizaine de journaux sont créés par des particuliers qui tentent de proposer une alternative aux journaux de la chaîne. 90, Mobutu, poussé par des facteurs de politique interne et externe, donc la fin de la guerre froide, la crise économique que connaît son pays en très très rapide, eh bien, il concède le multipartisme, on est donc en 90. Là, chaque parti veut se doter de son organe de presse pour diffuser ses idées et influencer les débats politiques. Entre parenthèses, on est un petit peu comme en 1958. Alors, conséquence, entre 90 et 95, plus de 600 publications apparaissent, mais très peu dépassent le premier numéro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes donc, s'improvisent patron de presse sans réellement posséder les compétences et ni les moyens financiers. Et donc, pour beaucoup, aujourd'hui, la presse congolaise garde les caractéristiques du contexte dans lequel elle a opéré sa renaissance en 90. Donc en 2008, il y avait 638 publications enregistrées au Congo, dans l'ensemble du Congo, mais seulement 228 qui paraissent régulièrement, de manière générale, et en plus elles paraissent souvent de manière irrégulière, et de manière générale, les entreprises de presse écrite peinent à assurer leur suivi financier, c'est très difficile. Donc, beaucoup de journaux aujourd'hui à Kinshasa, je m'intéresse plus particulièrement à la presse de Kinshasa, survivent grâce à des financements occultes. Et donc, conséquence, beaucoup de journaux et de journalistes évoluent dans le sillage de leurs éditeurs, fondateurs et ou financeurs, dont ils répercutent les convictions politiques. De ce fait, les journalistes disent préférer utiliser leur liberté d'expression uniquement quand ils en ont l'occasion, disent-ils. Il n'y a donc pas d'injonction directe apparemment du financeur ou du propriétaire, mais une certaine forme d'autocensure aujourd'hui. Donc le contexte est assez contraignant pour les journalistes quinois actuellement, mais il y a pourtant énormément de journalistes à Kinshasa. Je pense que la fameuse pratique du coupage peut en partie expliquer cette situation. Le coupage, c'est en fait une pratique qui consiste pour le journaliste à se faire rétribuer par sa source en échange, je fais passer votre information et vous me payez. Donc on voit bien que ce système implique le journaliste et sa source, mais également l'entreprise de presse qui dit, comme moi je n'ai pas accès au marché publicitaire, je ne peux pas payer mon journaliste maximum, mais vraiment maximum plus de 100 à 150 dollars par mois si on est dans le plus gros quotidien quinois, donc je ferme les yeux sur cette pratique. Donc elle implique finalement l'entreprise de presse, la source et le journaliste. Alors, très brièvement, une manière peut-être un peu caricaturale, si j'essaie de résumer ce que je viens de dire sur le Congo. Durant la colonisation, on avait un réseau très très restreint, c'est l'État qui est représenté par l'administration et les journalistes à qui, au départ, il impose une relation de domination avec cette législation respective. Et puis, un troisième acteur intervient dans cette relation, c'est l'émission dont je vous ai parlé, grâce auquel les journalistes peuvent finalement modifier leur relation par rapport à l'État et s'offrir un certain espace d'expression et ils peuvent comme ça pratiquer leur métier. En 1960, avec l'arrivée de Lumumba, l'État est alors représenté par son gouvernement. Il réinstaure la relation qu'il y avait avant, il réinstaure une relation à sens unique de domination. 65, et Mobutu, les professionnels de la presse sont attachés à l'État par un lien économique. C'est l'État qui a racheté tous les journaux et qui paye les journalistes. Et les journalistes sont également rattachés par un lien politique. Les journalistes sont alors définis comme des militants du MPR. Donc la relation est double. Mobutu a besoin des journalistes pour faire passer son message et les journalistes ont une position plus ou moins confortable grâce au salaire que leur offre le président. En 81, Mobutu cède un certain espace de liberté aux journalistes et permet la création de journaux privés. Et donc il y a un acteur jusqu'ici invisible qui apparaît, c'est les entreprises de presse, et qui tend à remplacer l'État qui était omniprésent depuis la colonisation. Aujourd'hui, le contexte économique a influencé cette configuration, donc de nombreuses personnes se sont improvisées par son presse, comme je vous disais, sans nécessairement avoir tout le bagage nécessaire, et donc la pratique du coupage est invitée dans le système, qui lie les deux acteurs, c'est-à-dire les journalistes et leurs sources, mais également l'entreprise de presse qui ferme les yeux sur cette pratique. Et de plus, en plus de cette relation économique, le coupage implique une relation très économique, il y a également une relation politique dans la mesure où le journaliste est lié à l'entreprise de presse. Il adapte sa pratique du métier en fonction de l'organe qu'il emploie, c'est de l'argent qui est injecté, et de la couleur politique des organes qu'il emploie. C'est là que je vous ai parlé très brièvement de l'autocensure. Alors, à propos de la Côte d'Ivoire, on revient un petit peu en arrière, on fait le même exercice. De manière générale, en Afrique occidentale française, la métropole n'a pas très envie non plus de voir émerger beaucoup de journaux autochtones. Donc, elle met en place une législation restrictive et une politique de taxation qui privilégie la circulation de la presse métropolitaine en Afrique, et donc pas la presse africaine. Mais le contexte international évolue après la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle constitution française de 1946 octroie de nouvelles libertés d'expression politique et syndicale et de nouvelles libertés d'expression en AOF et donc insuffle un certain dynamisme à la presse. Donc même si la presse reste sous domination française, cette évolution provoque la formation de publications essentiellement politisées. Les journaux d'AOF émergent en même temps que les organisations politiques. Mais il reste une relation de dépendance économique. Ces nouveaux journaux ivoiriens sont tributaires des capitaux privés, donc leur durée de vie est éphémère. Et dans les années 50, la plupart des publications disparaissent. À la veille de l'indépendance, seul l'hebdomadaire Fraternité du PDCI du Colbonie subsiste. Alors, 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, où Colbonie est président. De 60 à 90, c'est le parti unique, le PDCI. Seuls les journaux gouvernementaux subsistent. Le journaliste ivoirien est alors un fonctionnaire au service du développement du pays, qui est le PDCI, le pays est le PDCI. On parle alors du journalisme de développement, et le journaliste est payé par l'État. Donc il y a une relation de domination politique de l'État qui instaure le journaliste en tant que militant, également une relation économique, vu que c'est l'État qui leur reprend un salaire et un statut très confortable au sein de la fonction publique. Mais à partir des années 70 et 80, les efforts du gouvernement ivoirien pour contrôler l'information sont affaiblis par deux choses. D'une part, le mécontentement des journalistes fonctionnaires. Pourquoi ? Parce que les politiques d'ajustement restreignent le nombre de salaires disponibles au sein de la fonction publique dont ils font partie, ce qui fait que leur statut et leur salaire de fonctionnaire est plus précaire. Et d'autre part, deuxième chose qui diminue les efforts du gouvernement ivoirien pour contrôler l'information, c'est l'apparition de tracts clandestins anonymes. C'est l'émergence d'une presse informelle et clandestine qui permet à une certaine opposition illégale de se manifester. 90, Oufo Elboigny rétablit le multipartisme prévu à l'origine dans la Constitution. De nombreux partis sont alors officiellement reconnus, ainsi que leur presse. Les nouveaux journaux privés sont très proches des partis politiques d'opposition, mais à nouveau, le taux de mortalité des journaux est très élevé à cause de problèmes de gestion, de marché publicitaire restreint et de manque de journalistes qualifiés notamment. Alors aujourd'hui, on recense 21 quotidiens en Côte d'Ivoire. Le contexte est toujours extrêmement politisé. Comme dans le cas du Congo, on ne parle pas réellement de censure mais d'autocensure. Là, les journalistes disent savoir où il ne faut pas mettre sur les pieds. Pour qu'un journal puisse survivre, il doit être dit très rapidement, très proche d'un politique qui peut injecter de l'argent, soit parce qu'il a une audience des militants dans le camp électoral, soit parce qu'il veut jouer le jeu politique et répondre à des attaques d'un autre adversaire via la presse. Donc aujourd'hui, les journalistes s'apparentent fortement à des militants, et d'ailleurs se revendiquent comme tels quand on le leur demande, et instaurent un contrat avec le public qui est devenu un contrat politique. La presse ne s'adresse plus à des lecteurs, mais à des militants, qui forment l'électorat du parti auquel est adossé le journal. Certains journaux disent d'ailleurs avoir été créés pour l'électorat de tel parti. Voilà, donc si on reprend les petits schémas, pour vous donner une idée de la démarche que je voulais faire, avant 1946, durant la colonisation en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dépendants de l'État, législation restrictive et politique de taxation. Après 1946, un certain espace de liberté qui s'ouvre, un nouvel acteur constitué des partis politiques joue le rôle d'entreprise privée, mais la dépendance économique qui les lie à l'État reste présente et donc ils disparaissent assez rapidement. En 1960, les partis État ont une relation politique et économique avec les journalistes, donc ils sont des militants, ils ont un salaire confortable. À partir des années 70, cependant, apparition de tracts clandestins et mécontentement des journalistes fonctionnaires qui n'ont plus le statut et le salaire qu'ils avaient avant. À partir de 90 et jusqu'à aujourd'hui, floraison, c'est ce qu'on appelle le printemps de la presse. De nombreux journaux apparaissent à partir de 90, en même temps que les partis politiques. Les entreprises de presse deviennent un acteur à part entière du nouveau réseau d'interdépendance. Les journalistes sont liés aux propriétaires du journal. Ils modulent fortement leurs pratiques en fonction des attentes supposées du propriétaire, faire de son journal un outil rentable politiquement. Un journal pro-du FPI, par exemple, un journaliste ne dit jamais, on dira que Gbagbo ne sera pas libéré. C'est impensable, on ne peut pas dire ça. Donc tous les jours, ils le disent, ils s'adressent vraiment à cet électorat. Donc voilà, les journalistes se sentent liés à un acteur qui était jusqu'ici non représenté, le lectorat, qui sont des militants. Et donc on voit que ce sont les trois acteurs qui, à mon humble avis, fondent essentiellement la pratique journalistique aujourd'hui. Je vous remercie.
Alors, vu le temps qui reste, je propose qu'on ne pose pas de questions directes, à moins qu'il y ait une question brûlante, importante. Je propose également que nos commentaires à Lancelot et à moi-même soient réduits au minimum. pour que nous ayons le temps d'une discussion. On peut, parce que là, il est presque moins tard. Donc un quart d'heure.
Alors, concernant les commentaires, moi ce qui m'a intéressé dans toutes ces communications, c'est qu'on voit bien ici, comme elle dit ce matin avec la relais, c'est qu'on décloisonne énormément en fait l'histoire africaine et on voit qu'on peut être à la croisée de l'histoire coloniale, de l'histoire impériale, dans le cas italien et chez les Salésiens, mais aussi l'histoire européenne qui a évidemment une influence importante ici sur l'histoire africaine. Ici, ce qui me semble intéressant, c'est aussi de voir qu'on ne fait pas une histoire africaine cloisonnée, ni même une histoire coloniale seulement des Européens, mais vraiment dans cette interrelation. Alors c'est d'autant plus intéressant, pour un second point, que on voit dans les trois premières communications, on est dans des situations un petit peu de cosmopolitisme. Et on voit ici que le concept même de nationalité en situation coloniale n'est peut-être pas aussi opérant que ça à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On a, alors presque, on pourrait poser la question de l'existence de territoires un peu de monde. C'est le cas du Mozambique, c'est le cas du Congo belge, et c'est le cas d'autres régions comme le delta du Niger. En revanche, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a progressivement, dans l'entre-deux-guerres, une crispation autour de la question du national. On l'a vu avec la portugalité, on l'a vu avec l'italianité, on pourrait faire les mêmes commentaires avec la belgianité ou d'autres situations coloniales. On a comme une sorte de retour du boomerang de ce qui se passe en Europe en situation africaine. Mais pour autant, ce retour du national ne fonctionne pas toujours puisqu'on a la persistance de ces entre-deux identitaires dont vous parliez, Maurice. Et ce qui m'intéresse ici en situation coloniale, c'est pas un débat, c'est la question des individus frontières. C'est le cas des Arméniens, ça peut être le cas des Grecs, ça peut être le cas de personnes qui vont, d'individus qui vont être beaucoup plus proches des acteurs locaux que des acteurs européens. Et le dernier point là-dessus, c'est aussi, on voit dans les deux dernières communications, l'importance évidemment des acteurs africains dans cette situation, dont on parle un peu moins dans les trois premières. Et dans cette période du temps des indépendances, on a évidemment ici l'importance des héritages de la période coloniale, héritage politique, héritage de gouvernance aussi, on voit dans le cas des journalistes, et héritage de violence, puisque dans le cas de Lumumba, on voit qu'on a une réactivation finalement des pratiques coloniales, notamment des pratiques de guerre et des pratiques de profanation des corps aussi qu'on avait déjà à l'œuvre pendant la période belge et la période coloniale.
Alors très vite, simplement, effectivement, des axes de réflexion qui m'ont frappé en lisant puis en écoutant les communications. Alors je reprends un point qui a été évoqué ce matin, qui pourrait nous interroger tous, le fait qu'il n'y a aucune communication proposée sur avant la colonisation, pour évoquer un aspect qui me semble important sur la notion même de périodisation, hein, qui est éclatée. Je pense que maintenant tout le monde est convient du fait qu'il ne faut plus raisonner en précolonial, colonial et après la colonisation. Et donc je vais évoquer un élément pour ça simplement, c'est sur la question des frontières ou sociétés ouvertes ou fermées. D'après le modèle que vous avez mis en avant et fortement critiqué, bien sûr, c'est que cette personne semble justement négliger les fonctionnements internes des États africains qui intégraient de manière assez classique des personnes provenant d'autres sociétés. Toutes ces communications, c'est le deuxième aspect, montrent, me semble-t-il, l'importance du comparatisme, tout en ayant pour objet, si vous voulez, une question précise, la nécessité de la remettre dans des réflexions plus générales. Alors, un comparatisme interne à l'Afrique, bien sûr. Bon, je pensais par exemple à la compagnie du Mozambique par rapport aux compagnies du Congo belge ou du Congo français ou aux compagnies intérieures. Je crois que ce serait important à évoquer. Mais le comparatisme aussi, je pense que l'intervention sur les corps des leaders et on pense au Tsar, par exemple, on pense à Louis XVI, enfin je veux dire, il y a plein d'études historiques qui montrent cette idée d'importance du corps et du fait de soustraire le corps à des cultes, des rites. Donc là, je pense qu'un comparatisme plus large, je pense que vous y pensez, mais dans l'analyse, ça sera intéressant, c'est-à-dire sortir de cette spécificité de l'histoire de l'Afrique, qui est quand même ce qui nous enferme trop en général. Et bon, là, je pourrais développer, mais ce n'est pas le cas. Comparatisme pour les sociétés missionnaires, bien évidemment, évoqué sur les Salésiens, etc. Autre axe qui me semble aussi un acquis de l'historiographie contemporaine, mais qui ressort bien des différentes communications, c'est qu'on est sorti des dichotomies on est en train, ou on met d'autres modèles en place, qui sortent des dichotomies du manichéisme habituel ou antérieur, et au contraire mettre en évidence les tensions internes à tous les niveaux. Alors les tensions entre acteurs européens, vous l'avez bien montré pour les Salésiens, pour le Mozambique ça a été repris aussi, mais tensions internes dans les sociétés africaines à tous les niveaux. Alors bien sûr la question de la presse le montrerait, la question des leaders aussi. Et donc, on pourrait se reposer la question de la construction héroïque du personnage de Lumumba sur laquelle nous vivons. Donc, comment ça a été construit, récupéré par Mobutu, et quelles sont les autres constructions possibles à partir d'acteurs locaux, hein, d'acteurs politiques locaux, et notamment la remise en cause de la stratégie de Lumumba. Est-ce que c'était la stratégie la plus efficace? Enfin, donc là, on est dans des interrogations sur les tensions interne qui me semble devoir être creusé. Autre axe et qui va un peu de pair avec cette idée de tension, c'est tout ce qui tourne autour des catégorisations. Alors j'ai vu qu'il y a un atelier sur les catégories, mais qui ne porte pas spécifiquement sur ces questions-là. Toutes les questions des catégorisations, et donc la même chose, sortir des catégorisations qui seraient manichéennes, parce qu'effectivement le système colonial fonctionne en façade sur l'opposition entre sujets citoyens européens africains, mais si on creuse, on voit qu'il y a des tensions et des flous et des difficultés à situer juridiquement, mais aussi identitairement les gens, alors soit de la part de l'État, soit de la part des communautés elles-mêmes. On pourrait évoquer là un projet sur les papiers auquel participe notamment Séverine Abelango, mais il y a d'autres gens, sur les papiers, donc les papiers d'identité hein, pendant la période coloniale. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour le Mozambique, à nouveau, on a envie de parler du statut de 1926-1954, les créoles, les citoyens, donc comment ça fonctionne par rapport à ces Européens qui viennent travailler. On pense bien sûr aussi aux Libano-Syriens, je ne veux rien dire, enfin, il y a beaucoup de choses encore à faire dans ce domaine. Et moi, j'avais pensé, tout bêtement, en bonne Alsacienne que je suis, aux documents que j'ai trouvés dans l'état civil guinéen, enfin de la Guinée coloniale, où on naturalise français des Alsaciens qui ont quitté en 70. Donc il y a plein de questions que les autorités coloniales ont dû se poser à l'intérieur de ce manichéisme de façade. Alors, cette idée des statuts, des catégories, renvoie alors de manière plus globale à la notion de diaspora. Et donc, votre intervention était intéressante, tout à fait intéressante de ce point de vue-là, pour montrer les implications des statuts, mais aussi les implications des projets individuels entre sédentarisation, maintien du lien avec l'extérieur, et donc à nouveau le fait qu'il n'y a pas un choix X contre un choix Y, mais une implication. Voilà. C'est très bien parce qu'on n'a pas parlé d'un pas concerté là, parce qu'on l'avait préparé bien sûr avant. Enfin, avant. Alors maintenant, à vous, donc les questions, donc de manière là très ouverte et transversale.
Moi, j'ai une question, j'aimerais savoir, vous avez parlé au début de votre intervention de la difficulté d'être entendu pour les études africaines. Vous pouvez développer et il y avait un sentiment un peu de désintérêt.
Vous étiez là ce matin avec Charbonnet.
J'ai entendu ce matin, oui, et puis je vous ai entendu aussi à la.
C'est un débat qu'on avait tout à l'heure avec Wigan. C'est vrai que pour beaucoup, pour les historiens, Il y a assez peu de départements, assez peu de séminaires qui concernent l'histoire africaine, assez peu de laboratoires qui intègrent les gens aussi dans ces études africaines. Et il y a aussi des perspectives de carrière qui sont, alors pas nécessairement bloquées, mais qui sont, on va dire, moins ouvertes que si vous travaillez sur la France de la Troisième République ou la France de Vichy, par exemple. Et on peut comparer aussi avec d'autres situations européennes, mais je pense que c'est une situation plus générale et, à mon avis, relativement occidentale. Si on regarde, par exemple, le cas de la Belgique, relativement, comparé aux années 80-90, où il y avait encore une école africaniste assez importante en histoire, maintenant, il n'y a plus aucun poste, et c'est des gens qui sont spécialisés sur d'autres aires qui vont commencer à se spécialiser en histoire africaine. Donc, optimisme ou pessimisme, je ne sais pas trop, il faut...
Ça sera peut-être pris dans la table ronde finale.
Oui, je pense que c'est un débat, que les africanistes doivent avoir aussi, et c'est aussi un débat des historiens en général, c'est comment intégrer des gens qui travaillent là-dessus dans des laboratoires africains plus généraux, par exemple, sans se focaliser uniquement, par exemple, sur l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie a une audience plus importante du poids norial évidemment et du poids historique, et c'est vrai que l'Afrique subsaharienne n'a pas eu autant de...
Sur les communications, peut-être maintenant, de manière... vous êtes un peu assommé après 3 heures pratiquement.
Moi j'ai une question. Oui, allez-y, la question des statuts, je vais venir à la question des statuts parce que vous avez dit au tout début qu'avant la colonisation italienne, la situation de ces minorités était une situation précaire. Voilà. Et en fait, à propos, moi je fais référence à l'Égypte, quand on parle de l'Égypte des capitulations et avant l'installation du collectorat britannique et qu'on évoque la possibilité d'adhérer à des pays différents, on ne parle pas de légalité, mais plutôt au contraire de la possibilité de jouer sur plusieurs identités, donc de mobiliser
maintenant. Oui, je suis d'accord. C'est à la fois un avantage pour les personnes concernées qui peuvent donc obtenir cette protection et même changer de protection en gré de leurs intérêts, mais en même temps, et comme je le disais, l'ambassadeur de France peut très bien radier s'il considère que le comportement de telle ou telle personne n'est pas satisfaisant. Du moment qu'il n'est pas citoyen français, on peut le radier des listes de protégés français, et ça, c'est juste une décision bureaucratique, quoi. Donc, certaines précarités dans ce sens-là.
Arbitraire, peut-être aussi, on peut vous enlever un statut.
Oui, mais en fait, il y a l'intérêt des individus et il y a l'intérêt des États aussi, parce qu'ils acceptent de prendre des protégés pour étendre leur influence, comme les Italiens.
Moi, j'avais une question. Notre collègue. Tout à l'heure, tu as évoqué l'idée qu'il n'y avait pas de solidarité africaine dans les concessions, dans la compagnie, ou peut-être que c'était un raccourci
non,
rapide.
Non, il n'y avait pas de
syndicats, peut-être.
Alors, il y avait des groupes de travailleurs africains. Ce que je voulais dire, j'ai parlé trop vite et j'ai oublié un mot, il n'y avait pas de solidarité entre travailleurs africains et travailleurs européens. C'est bien ça. Alors, pas oui. Passé, du coup merci de me le faire bien préciser, corriger, c'était ce que je voulais dire. Il y a un clivage dans le monde du travail qui se retrouve dans le monde syndical, hein. Bon, d'abord parce que le monde syndical africain met énormément de temps à émerger, et pour la période qui m'intéresse il est très embryonnaire, c'est parce que moi j'étudie, mais de ce que j'ai lu, il y a très peu d'appels de la part des travailleurs, enfin il n'y a pas d'appel de la part des travailleurs européens à une solidarité intercommunautaire, raciale, ethnique, avec les travailleurs africains. Peut-être qu'un mot, j'ai oublié un mot dans...
Peut-être moi c'est pas bon.
Mais c'était
important d'évoquer
cette précision.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir certains aspects, de dire le lien historique actuel. Et j'aimerais bien savoir pour trois d'entre vous quels sont les sièges d'héritage qu'on peut voir. Et en l'occurrence, pour Laura, Boris et vous, donc vous par exemple, ce serait le nom de la compagnie du numérique. Et puis vous, par rapport aux catégories dont vous avez parlé, que ce soit par exemple pour Laura, pour le système scolaire par exemple, s'il y a des figures qui restent ou des formations, je ne sais pas. Et puis pour vous, pour l'immigration longue, j'imagine, oui, et qui on peut voir aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a eu
une immigration, ce qu'on voit, c'est une immigration, du coup, ça s'appelle peut-être pas comme ça maintenant, mais une population arménienne et grecque en Éthiopie.
Oui.
Oui. Oui, le lien avec vos communications avec aujourd'hui.
Je vais peut-être commencer. Alors aujourd'hui, la compagnie du Mozambique s'appelle Entreposto Comercial. C'est une société anonyme qui a fait preuve hein, d'une très très grande souplesse et d'une très très grande habileté hein, tout au long du 20e et maintenant du 21e siècle, hein, qui a donc survécu d'une part à donc, sa déterritorialisation hein, lorsqu'elle perd la concession en 1942. Elle continue hein, à avoir une activité commerciale très forte. Elle change de statut juridique. Avec l'indépendance en 1975, elle se maintient hein, au Mozambique. Et dès la fin des années 60, elle commence à diversifier ses activités et ses espaces d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une compagnie donc, qui a une activité très, très différente, hein, qui fait non plus de la concession minière, mais de la concession automobile, donc hein, qui exporte des Toyota dans le monde, et où les importe-t-elle au Brésil, au Timor, au Portugal, au Mozambique, hein, c'est-à-dire en reprenant les structures de l'ancien empire portugais, et en s'appuyant évidemment sur une espèce de lusophonie pour continuer d'exister. Donc elle continue alors à prospérer, je ne suis pas sûre, mais à exister et avoir une activité aujourd'hui.
La question sur les héritages, je pense qu'elle pose dans mon cas la question de la durabilité des systèmes d'enseignement d'origine coloniale, qui est très une question d'actualité en Égypte, puisque malgré toute la mobilisation contre les systèmes d'enseignement étrangers qui étaient considérés comme antinationaux, surtout au moment de l'indépendance égyptienne et de la révolution de 1952, ces systèmes continuent d'exister. Ils ont été, dans certains cas, nationalisés, dans d'autres, ils ont fait l'objet d'accords entre bilatéraux entre l'Égypte, par exemple, dans l'État des Salésiens, entre l'Égypte et l'Italie. Donc, ça continue d'exister sous des formes différentes. Bien sûr, parce que par exemple, dans les cas des missionnaires salésiens, seuls les établissements d'enseignement technique et professionnel ont survécu. C'est-à-dire tout ce qui était écoles élémentaires, qui était surtout destiné aux communautés italiennes. Tandis que l'enseignement technique et professionnel, comme je l'ai dit dans ma communication, recrutait énormément de la végétation. Donc, effectivement, la question de la globalité est très intéressante et d'actualité.
Pour les Grecs, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais pour les Arméniens actuellement, on va dire les gens d'origine arménienne en Éthiopie, parce qu'ils sont tous de nationalité éthiopienne depuis le milieu des années 60, ils sont 80. Je pense que pour les Grecs, c'est à peu près équivalent. Bon, ils ont gardé leur structure communautaire les uns et les autres. Il y a toujours la messe dans les deux églises grecques et arméniennes d'Addis Abeba. Ils ont une vie communautaire encore, c'est évidemment très réduit. Il y a eu dans les années 60 un processus d'éthiopianisation des cadres d'administration éthiopienne du temps de l'empire d'Haïlé Sélassié, hein, qui fait qu'il était devenu vraiment pressant d'obtenir la nationalité éthiopienne. Et donc à ce moment-là, tous ceux qui étaient protégés ou de nationalité française ou avec des passeports libanais qu'ils avaient achetés se sont arrangés pour devenir éthiopiens. Et puis ils le sont restés même après la révolution, donc en 1974. Et je tenais à préciser que la révolution a été très dure évidemment pour l'Éthiopie. Par exemple, pour ces minorités, il n'y a pas eu d'exaction contre les minorités et ils n'ont pas été chassés l'Éthiopie. Ils sont partis parce que les conditions économiques étaient complètement différentes. Il y a eu une nationalisation des biens immobiliers et tous ces gens-là qui avaient deux, trois maisons pour assurer leurs vieux jours en les louant, du coup, ils n'avaient plus rien. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis rejoindre leurs enfants déjà partis pour faire des études au Canada ou en Australie ou aux États-Unis parce que simplement, ils n'avaient plus les moyens de continuer à vivre en Éthiopie. Puisqu'il n'y a pas de système de retraite en Éthiopie à cette époque-là. Donc voilà, mais il n'y a pas eu d'expulsion.
On va continuer ici. Pour tous les participants, on se retrouve au CERI, là on était ce matin, pour un déjeuner. Et le prochain panel commence à
14h30. 14h30. 14h15.
Merci.